Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Aujourd'hui, dans votre espace Plaisir de lire, nous vous proposons un extrait de Mission terminée, un roman de l'écrivain camerounais Mongo Betty, publié en 1957. La description critique de la situation coloniale vis-à-vis des traditions africaines, puis celle de la décolonisation ratée et des troubles de l'Afrique contemporaine, constitue le sujet principal de Mission terminée. Dans cet extrait, le lecteur découvre un moment du voyage tumultueux du héros, prodrome inquiétant à ses vacances aventurières.
Chaque fois que je me rappelle ma petite aventure, j'éprouve soudain la vilaine envie de redevenir jeune, de la recommencer. Ce mois de juillet-là, vous souvient-il ? Je venais d'être recalé à l'oral de mon bachot. Avec quelques autres de notre promotion, je ne pourrais plus dire lesquels exactement. Vous n'avez certes pas oublié qu'après cet échec, je trouvais une formule qui vous amusait invariablement et que je servais de préférence à quiconque m'interrogeait sur mon examen. J'ai été recalé comme il se doit, déclarai-je. Ce « comme il se doit », un peu péremptoire, j'en usais comme d'un alibi pour faire grâce à mon interlocuteur et surtout à moi-même, du souvenir de toutes les tribulations qui m'avaient amené à cet insuccès qui, je le crains, a dû faire de moi un beau raté. Mais ça, c'est une autre histoire. Le lendemain de la distribution solennelle des prix, en quittant l'internat indigène, nous étions tous très gais, n'est-ce pas ? Pourtant, je ne me forçais guère de vous dissimuler mon amertume. Simplement, il y avait parmi nous des gens, tel cet incroyable Daniel, dont l'irrésistible drôlerie m'empêchait de m'occuper de moi, de méditer sur mon triste destin, comme disent les poètes. C'est Daniel, rappelez-vous, qui déclarait souvent « Moi, mes ancêtres furent non point gaulois, mais bantous. Ils le sont d'ailleurs restés depuis. Et apparemment, il n'y a pas de raison qu'ils veuillent changer de parti aujourd'hui. » Ou encore « Partout où il y aura un noir, il se trouvera toujours quelques colons pour lui rôder autour. » Comme le soleil se levait, nous nous dispersâmes et je me retrouvais seul dans le car. On parcourait d'habitude en 3 heures la 60aine de kilomètres qui séparait Angola de mon village. Je me rappelle que ce fut bien plus long ce jour-là. Installé sur la banquette de bois, je résolus de consacrer la durée du voyage, non à m'attrister sur mon échec, travers auquel j'étais décidément enclin, mais à réfléchir sur la façon la plus intelligente d'échelonner sur les 3 mois de vacances mes révisions en vue de la deuxième session. Par malheur, mon mauvais génie avait décidé, lui, de ne me laisser point de répit, de me forcer à méditer sur sa toute-puissance. Le bruit du moteur parut avoir brisé cette immense outre, toujours pleine, le ciel de chez nous. Ce fut une pluie drue, agressive, furieuse, interminable. Une de ces averses sous lesquelles une case, dirait-on, s'enfonce plus profondément dans le sol. Notre véhicule, longue case roulante, s'embourba aussi souvent qu'il le put. Le chauffeur, un grec qui était aussi propriétaire du car, sortait dans la pluie, suivi de ses 2 employés noirs, un peu réticents. Il disparaissait dans la forêt proche, en revenait chargé de branchages et de feuilles mortes qu'il fourrait sous les pneus pour empêcher le véhicule de patiner. Cette opération réussit une première, une deuxième, une troisième et même une 4e fois. La 5e fois, nous frisâmes la tragédie. Le car tentait vainement de grimper une colline escarpée et il tombait une pluie serrée. Loin de nous être secourable, l'opération branchages et feuilles mortes faillit tourner à la catastrophe. Au lieu d'avancer, le car, ainsi qu'une vache harassée, se mit en travers de la chaussée, le nez sur le bord d'un ravin, dont la pique ne nous eut pas laissé la moindre chance de survie. Par bonheur, la vieille bête piétinait, piaffait sur place. Le chauffeur grec éteignit son moteur et se mit à pester. Merde, nom de Dieu, putain, nom de Dieu, merde. En fait, il jurait dans un baragouin immonde, fait de français, d'italien, de grec, d'anglais, qu'il me serait impossible de transcrire même en orthographe phonétique. Chaque fois que le pauvre Critikos jurait, je pensais « Ah, si Socrate te voyait !» et je pouffais de rire irrésistiblement. À un moment, le grec se tourna vers moi et me dit en très bon français « Il n'y a pas de quoi rire, petit. Tu devrais plutôt pleurer. Sais-tu une chose ? Eh bien, moi, je suis resté des années au Congo belge. Oui, des années au Congo belge. Crois-moi, là-bas, il y a des routes et des vrais, avec du goudron, des postes d'essence et tout. Les Belges, ils ont fait du bon travail au Congo, tu peux me croire. Tandis que les Français ici, oh là là, ils n'ont que ça, la grande gueule. » Critikos fit une grimace de mépris, haussa les épaules, se tut. Les passagers, tous noirs, se tournèrent vers moi, le regard anxieux, comme s'ils eussent craint que je ne m'abstienne de donner la réplique aux valeureux Atrides, eux qui sont si friands de bagarres, même verbales, fût-ce dans une langue qu'ils ne comprennent pas ou comprennent mal. « Pourquoi n'es-tu donc pas resté au Congo belge ? » hasardai-je. « Ce n'est pas que j'ai un seul instant songé à défendre la colonisation française. Je savais déjà à l'époque que toutes les colonisations se ressemblent par la trique. Mais la question était tout de même pertinente au point de vue de la logique pure. » À l'ouïe de mon propos, les visages des passagers se tournaient vers Critikos, lequel, apparemment perplexe, fixa sur ma chétive personne tout le bleu méditerranéen de ses yeux. Finalement, il eut un nouveau haussement des épaules, puis se détourna, ce qui fit sourire les passagers. « Tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune, » marmotta le grec, affalé sur son volant. Comprenant que leur poulain, je veux dire moi, avait eu le dessus dans cette joute, les passagers me firent grâce de leurs regards angoissés et claironnants comme une proclamation de guerre patriotique. Mais ce n'était pas tout ça. Notre véhicule restait le nez sur le bord du ravin, obstruant la chaussée de toute sa longueur. Aussi, deux files de voitures et de camions se formaient à l'avant et à l'arrière, si seulement nous avions encore un avant et un arrière. Et pas de vigoureux coups d'avertissement, des cris et des injures, leurs chauffeurs exprimaient plutôt clairement leur désir de nous voir dégager la chaussée. Critikos, à la fin, sortit sous la pluie, claquant sa portière, et par des gestes, des hurlements, des jurons et autres accessoires, fit comprendre à ses collègues qu'il n'était en rien responsable de ce qui lui arrivait. Les chauffeurs se concertèrent. On les vit longtemps groupés sur la chaussée, des noirs et un seul blanc. La pluie ruisselait sur leurs imperméables kakis. Ils décidèrent d'abord de délester le car en détresse de ses passagers. Nous nous traînâmes dans la boue de la térite et allâmes nous réfugier dans les cases d'un hameau si sur le bord de la route. De sorte que je ne pus dire comment ils s'y sont pris pour remettre la vieille bête dans le droit chemin. Toujours est-il qu'au bout d'une heure d'attente, nous vîmes notre véhicule déboucher lourdement, titubant sur la latérite glissante, grognant de vieillesse et de résignation. Vous venez d'écouter un extrait du roman « Mission terminée » de l'écrivain camerounais Mongo Betty. Mais qui est Mongo Betty? Alexandre Biyidi Awala, plus connu sous les pseudonymes successifs des Aboto et de Mongo Betty, est né en 1932 à Balmayo, au sud de Yaoundé, dans le sud du Cameroun. Après un séjour mouvementé à l'école missionnaire, Alexandre Biyidi Awala termine ses études secondaires au lycée de Yaoundé où il obtient son baccalauréat à l'âge de 19 ans. Il vient faire ses études supérieures en France, à Aix en Provence, puis à la Sorbonne. Militant anticolonialiste dans les rangs de l'UPC de Ruben Oum Niobe, il s'interdit dès 1959 le retour dans son pays qu'il juge non démocratique. Il s'est déjà fait connaître par quatre romans, dont « Le pauvre Christ de Bomba », publié en 1956, dont le retentissement a été considérable. À partir de 1974, il publie de nouveau des romans et parallèlement s'impose comme le leader intellectuel de l'opposition au régime d'Aïdjo et de son successeur. Depuis 1978, Alexandre Biyidi Awala dirige avec énergie la revue Peuple Noir, Peuples Africains, qui dénonce vigoureusement la faillite politique et culturelle des nouveaux États africains et les séquelles de l'impérialisme français, tout en essayant de tracer les voies d'une alternative. Auteur de quelques nouvelles et de nombreux articles, Morobetti est essentiellement un romancier. On lui doit Ville cruelle, publié en 1954. Le pauvre Christ de Bomba, 1956. Mission terminée, 1957. Et Le roi miraculé, en 1958. Écrivain exilé dont les ouvrages sont proscrits dans son propre pays, Morobetti a néanmoins écrit une œuvre profondément enracinée dans la vie du peuple camerounais. Il met en scène les opprimés avec beaucoup de sensibilité et de réalisme. Ses premiers romans sont marqués par l'opposition irréductible, faite de violence et d'incompréhension entre le monde du colonisateur et celui du colonisé. Si la thèse y demeure identique, on ne peut qu'être frappé par la diversité des registres qu'il exprime et par la grande sûreté de la narration. Du pathétique dans Ville cruelle, on passe à la satire dans Le pauvre Christ et à la comédie de mœurs avec Mission terminée. Alexandre Bihili Awala, dit Ezaboto ou Morobetti, meurt le 7 octobre 2001 à Douala, dans son Cameroun natal.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin. Montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Plaisir de lire. Des pages ouvertes sur le livre. Nous vous proposons aujourd'hui un extrait de Cri rouge de l'écrivain ivoirien Zegwa Gbessi Nokan ou Charles Nokan. Dans cette pièce de théâtre poétisée publiée en 1972, Charles Nokan présente le visage et la plume d'un écrivain conscient tout à sa lutte libératrice, tout au service du peuple pour la liberté. En toile de fond se dessine l'image du révolutionnaire qui chante son combat qui débouchera tôt ou tard sur la victoire.
Des rafales fauchent un de mes frères du village. Des corps gisent dans la neige. Je suis touché à l'épaule droite. Et je choie dans la boue blanche. Je me sens si loin de moi-même. Ma conscience s'éteint. Je me réveillerai dans un lit confortable. Une jeune fille blonde aux grands yeux verts veille sur moi. Je me dis, la nuit n'est pas infinie. Le jour finit toujours par éclore. La jeune infirmière caresse mon épaule meurtrie. Elle me soigne comme son enfant.
Quand de notre fenêtre nous t'avons vu tomber, j'ai demandé à mes parents d'aller te chercher. Les Hitlériens qui passaient s'arrêtaient, te donnaient des coups de godillot et te croyant mort, repartaient. Maintenant, tu es à l'abri chez nous. Un médecin de mes amis t'opéra clandestinement. Je te guérirai.
Sa douce voix me réconforte. Je lis mon avenir dans ses yeux en amande. Une lettre m'annonça que ma mère et Coco sont mortes de chagrin. Moi, soldat courageux, naguère à la pointe du combat, je me surprends à pleurer. Mais ma joie l'emporte sur ma douleur. Je ne retournerai pas au pays natal. Je deviendrai un citoyen libre sur cette terre étrangère. La douce main de mon infirmière me communique des forces. Pour moi, sans elle, l'existence perd son sel. Sa lumière dissipe ma solitude, me fait aimer la vie et oublier mon pays. Monique, mon infirmière, me rend juste généreux. Son sourire illumine ma convalescence. Je deviens un autre homme. Je me sens très fort auprès d'elle. Vint la fin de la guerre. J'épouse Monique. Adieu, Afrique divisée, quasi dévorée. Je baigne dans la clarté. La rivière limpide qui borde ma voie me berce. Le jour avale les ténèbres. Cuisinier d'un grand restaurant, tout semble me sourire. Ma vie coule et coule, paisible, ici. Mais je ne puis oublier l'Afrique. Mon regard est tourné vers elle. Je la vois au loin, vêtue de misère. La plupart de mes frères qui ont combattu aux côtés des alliés ont regagné leur pays, éclopé. Abandonnés, trahis, ils vivotent là-bas. Révoltés, avec leurs familles, ils envahissent les rues, manifestent. Les colons et leurs valets tirent sur eux. Beaucoup moururent d'avoir voulu demeurer des hommes. Ce fut le matin ombré, le matin baigné de sang noir. Il fait extrêmement chaud et nous travaillons. Il pleut et nous besognons pour les riches. D'une fenêtre de sa villa des plus luxueuses, le colon se rit de nous. Quand nous nous arrêtons un instant, les gardes du cercle nous cinglent de coups de fouet. La guerre a englouti des fortunes. Nos sueurs et sang en créent de nouvelles pour les riches. Le jour n'est pas loin où nous lèverons la tête. Viendra le temps où nous prendrons des fusils. Nous sommes éreintés et couverts de poussière pour d'autres. Nous subissons toutes les intempéries pour d'autres. Nos mains cailleuses pétrissent la terre pour d'autres. Nous n'acceptons plus notre situation. Nous ne serons plus des morts vivants. Nous allons lutter. Nous ne tarderons pas à lutter. Ainsi chante le peuple. Mais les premiers mouvements politiques, l'arrivée des députés africains en France, recréèrent le jour en moi, recréèrent le soleil en moi, jour trop tôt égorgé, soleil trop tôt souillé, hélas. Ce furent les massacres de Madagascar, de Dimbokro, Boiflé, Séguéla. Mais voici l'octobre bolchevique, les ouragans chinois, cubains et vietnamiens accoucheurs de liberté et de justice. Voici la tempête de l'Aurès et mon pays obtient une indépendance polluée. Et la racaille a dépouillé mon Afrique et les brigands l'ont éventré. Et le peuple de continuer sa chanson ombrée. Ils ont fusillé l'aurore, criblé de balles le petit matin, troué le soleil, éborgné la lumière, blessé, violé, balafré, tordu, pressuré l'Afrique. Nous travaillons pour les riches. Pour eux, nous sommes éreintés et couverts de poussière. Pour eux, nous subissons toutes les tempêtes. Pour eux, nos mains cailleuses pétrissent la terre, nettoient les plantations. Mais nous lèverons bientôt la tête. Viendra le temps où nous prendrons des fusils et la liberté ne sera plus étouffée. Nous accoucherons d'un matin clair. On a mitraillé là-bas les voix de mes frères. Je pleure sur mon pays livré aux pirates. J'entends le silence des miens et il y a des épines dans mon cœur. Mais le silence fait naître l'orage, puis s'éclaircit le ciel. Après la nuit, la lumière du jour africain. Qui est Zegwa Gbessi Nokan ou encore Charles Nokan? Né sous le nom de Conan Kwame en 1936 à Yamoussoukro, Zegwa Gbessi Nokan ou Charles Nokan est un auteur ivoirien. Il effectue le début de sa scolarité dans sa ville d'origine, Yamoussoukro, puis à Toumoudi. En 1952, Charles Nokan part terminer ses études secondaires en France, puis devient étudiant à Poitiers où il passe une licence de sociologie. Sa première œuvre, Charles Nokan la publie en 1962 sous le titre « Le soleil noir, point ». Revenu en Côte d'Ivoire en 1964, Charles Nokan, au moment de l'affaire du complot, est immédiatement emprisonné. Libéré en 1965, il retourne à Paris, passe un doctorat de philosophie, travaille comme chargé de cours à la toute nouvelle faculté de Vincennes, participe un temps à la rédaction de Présence africaine. En 1973, Charles Nokan rentre définitivement en Côte d'Ivoire pour enseigner la sociologie à l'université d'Abidjan. Charles Nokan est à ce jour membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Zegwa Gbessi Nokan a publié de nombreuses œuvres théâtrales, entre autres Le soleil noir point en 1962, Le malheur de Kiako en 1968, La traversée de la nuit dense en 1972 et Le matin sera rouge en 1984. Charles Nokan se définit lui-même comme un écrivain engagé, marxiste, léniniste et révolutionnaire. Il considère l'écriture comme une forme du combat politique. Les personnages de ses pièces et de ses romans sont emblématiques de groupes sociaux. Ils ont choisi leur camp, celui de la révolution prolétarienne ou celui de l'impérialisme. Comme leur auteur, les héros positifs de Nokan ont le goût du didactisme. Ainsi Kossia dans Le matin sera rouge. Nous voulons amener les masses à connaître la source réelle de nos souffrances et à y trouver un remède. Il nous faut ouvrir les yeux du peuple. Ces héros sont les prophètes d'un monde nouveau qui sortira d'un immense brasier destructeur. Dans ses derniers romans, Charles Nocan ne s'adresse pas aux lettrés, mais aux adeptes potentiels de la révolution. L'écriture politique de Nocan passe par une politique de l'écriture intéressante et originale qui fait place au néologisme, à l'usage de termes empruntés à la langue baoulée et à un mélange hardi de prose et de poésie.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.